Mesdames, Messieurs, bonsoir. Donc, je vais vous parler de où en est l'Afrique face à la réalisation des objectifs du millénaire pour le développement, notamment ceux de la santé. Alors, le plan de la présentation va aborder d'abord le cadre historique, le contexte d'émergence de ces objectifs du millénaire pour le développement, un aperçu sur les résultats globalement à l'échelle mondiale, bien sûr les résultats en Afrique pour les OMD de la santé, donc relatifs à la mortalité infantile, maternelle, au sida, autres maladies, et un point sur la question de l'accès aux médicaments que je ne vais pas développer, mais je vous donnerai des références. Et puis, donc, les OMD, malheureusement, ne seront pas réalisés en Afrique, les OMD de la santé. Donc, on essaiera, soit dans un temps de discussion, soit pendant la présentation, de voir pourquoi. Et puis, un point sur comment se discutent les objectifs pour le développement après 2015, parce que tout ce que je vais vous présenter là se déroule sur la période... Ils ont été définis, ces objectifs, en 2000, mais la mesure de la performance de la réalisation de ces objectifs quantitativement dans les pays se mesure entre 1990 et 2015, donc sur une période de 25 ans de mise en œuvre, en réalité. Alors, quel est le contexte d'émergence des objectifs du millénaire pour le développement? Nous sommes dans les années 90 et ce sont des années... pendant lesquelles on observe un changement de paradigme du développement. Jusque-là, le développement était dans un paradigme où on croyait à un développement issu de la croissance économique. Et les bailleurs de fonds internationaux, bilatéraux notamment, les gouvernements français, américains, canadiens, allemands et autres, donc, et la Banque mondiale et la Commission européenne, finançaient le développement dans cet état d'esprit. Dans les années 90, on est en Afrique dans une période de post-crise économique, de chute des cours des matières premières, des effets des politiques d'ajustement structurel des institutions de Bretton Woods. Et donc, le paradigme va changer à cette époque et on est plus entré dans une phase palliative, je dirais, de vision du développement, qui est la lutte contre la pauvreté. Donc, les pays mettent en place des cadres stratégiques nationaux de lutte contre la pauvreté avec un volet santé et qui seront financés par la Banque mondiale et la Commission européenne notamment, qui sont très présents dans les années 90 sur le secteur de la santé avec des financements beaucoup plus importants que les bailleurs bilatéraux classiques. Le contexte d'émergence des OMD est aussi l'explosion de la pandémie de sida en Afrique australe à la fin des années, milieu des années 90 jusqu'à fin des années 90. 10 ans après la création du programme mondial SIDA de l'OMS. C'est donc un petit peu un constat des limites du programme SIDA mondial de l'OMS entre 87 et 96, au point que l'institution des Nations Unies crée une nouvelle agence, ONU SIDA, qui regroupe 10 agences des Nations Unies, donc pas seulement l'OMS, l'OMS avec UNICEF, avec FNUAP, avec le PAM, etc., et la Banque mondiale associée. J'insiste sur ce contexte d'explosion de pandémie de sida parce qu'il va nous mener la communauté internationale jusqu'au Conseil de sécurité qui émet une résolution en juillet 2000, puis une résolution de l'Assemblée générale des Nations Unies l'année suivante en 2001, la déclaration d'engagement sur le sida et tout ce contexte au moment où se définissent les objectifs du millénaire pour le développement vont justement influer leur définition. Alors, la déclaration du millénaire est adoptée donc en juillet 2000. Elle établit 8 objectifs du millénaire qu'on va voir. Et c'est vraiment le premier consensus international de toute la communauté, des bailleurs de fonds et des pays, de s'entendre sur des objectifs communs réalisés. Et sont définis en pleine année donc, considération pour la première fois de son histoire de la question du sida au Conseil de sécurité. Alors, quels sont ces objectifs du millénaire pour le développement? Donc, il y en a 8. Le premier, c'est éliminer l'extrême pauvreté et la faim, donc la proportion de population qui vivent en dessous avec 1 dollar par jour. Le deuxième est relatif à l'éducation primaire pour tous. Le troisième est relatif à l'égalité des sexes et à l'autonomisation des femmes, et notamment à la question de la parité filles-garçons à l'école. Puis viennent les 3 OMD santé, donc vous voyez quand même sur 8 OMD, on en a 3 spécifiquement sur la santé. Le 4e objectif, c'est réduire des 2/3 la mortalité des enfants de moins de 5 ans. Donc deux tiers, encore une fois, entre 1990 et 2015. Hein, donc nous sommes proches de l'échéance, mais les données de base sont à regarder en 1990. L'OMD5, il est relatif à la santé maternelle et particulièrement à la réduction de 3/4 de la mortalité maternelle, c'est l'objectif. Et l'OMD6, regardez sa formulation, combattre le VIH-Sida, le paludisme et d'autres maladies. En 2000, ces maladies, en tout cas le sida, le paludisme et la tuberculose, tuent 6 millions de personnes par an dans le monde. Donc elles sont mises en exergue vraiment au niveau de la définition des OMD. Mais quand même, ce qui nous frappe dans cette définition de l'OMD6, c'est que la tuberculose, bien qu'étant là, n'est pas explicitement mentionnée. Et les pays vont avoir du mal à accéder aux ressources internationales pour lutter contre la tuberculose, au moins pendant les premières années, au moins pendant les 5 premières années, donc avec des effets certainement importants à considérer. Ça n'a pas été vraiment évalué de cette manière-là, mais c'est important. On voit bien que les maladies négligées, dont on a parlé tout à l'heure, dont le professeur Sansanetti a parlé, ne sont pas non plus explicitement mentionnées. Elles sont évidemment incluses dans ces autres maladies, mais pas avec la même attention politique et internationale que le sida, qui va vraiment prédominer sur la scène de réalisation des OMD. Vous avez un OMD7 pour assurer le développement durable et l'OMD8 qui est très intéressant, qui est un peu à part et qui, là, interpelle plutôt la communauté internationale dans son ensemble, mais en particulier les pays riches, les pays du Nord, pour mettre en place un partenariat mondial pour le développement avec des dispositions relatives à l'aide publique au développement pour augmenter l'aide, des dispositions relatives à l'accès au marché pour faciliter l'accès au marché pour les pays du Sud et aux dettes, etc. Toute une série de considérations comme ça pour aider au développement au travers d'un partenariat mondial et facilité par les pays du Nord. Et dans cette OMD8, vous avez une cible qui interpelle l'industrie pharmaceutique et qui mentionne donc, en coopération avec l'industrie pharmaceutique, rendre les médicaments essentiels disponibles et abordables dans les pays en développement. Donc je ne traiterai pas de ce point-là, il est très spécifique, c'est vraiment un sujet en soi, mais il y a une bonne référence qui m'a été communiquée par un spécialiste de l'OMS récemment sur ce sujet que je viens de citer. Alors, les indicateurs de suivi des OMD. Donc, comment est suivie cette performance? Alors, assez rapidement, mais pas dès le début, l'OMS a mis en place un département qui s'appelle Health Metrics Network et qui a la mission d'appuyer les pays à mettre en œuvre les dispositifs de suivi de performance de réalisation des OMD au niveau national, donc d'un appui technique de formation, de rédaction de directives, d'orientation technique et logistique pour leur système national d'information sanitaire. Alors, quels sont les indicateurs? Alors, il faudrait que je trouve le fichier. Les indicateurs qu'on a ouverts, normalement. Voilà. Je vous donne des exemples. Est-ce que vous voyez là? Oui. Donc, allons directement aux objectifs donc, de la santé. Là, vous voyez que, par exemple, pour suivre la question de l'OMD, de combattre le sida, le paludisme et les autres maladies. Pour le suivi de la lutte contre le sida, il y a beaucoup d'indicateurs à la fois qui vont suivre les interventions de prévention, de prise en charge, de limitation d'impact, des indicateurs d'impact en termes de réduction d'incidence et de prévalence, mais aussi des indicateurs en termes de taux de couverture, d'accès à des interventions de dépistage, de prévention de la transmission mère-enfant du sida, d'accès aux ARV, etc. Donc il y a toute une série d'indicateurs, mais le suivi des OMD va reposer pour cet OMD-là sur ces indicateurs-là. Donc chaque pays devra rendre compte sur la réalisation en termes de ces indicateurs-là. Donc vous voyez qu'on ne prend pas l'incidence, justement, un indicateur d'impact qui est le plus fiable en termes de regarder les effets de politique nationale de lutte contre le sida sur la réduction et de la maladie et des nouveaux cas, on va prendre le taux de prévalence du VIH dans la population âgée de 15-24 ans en admettant que le proxy pour l'incidence, ce sera la prévalence du VIH dans la population âgée de 15 à 19 ans. Et parfois, on regarde les tendances si on n'a pas d'autres éléments plus intéressants dans les groupes de femmes enceintes, par exemple, qui sont suivies dans le temps, la séroprévalence des femmes enceintes. On va regarder, alors en termes de comportement, d'attitude des populations, l'utilisation d'un préservatif lors du dernier rapport sexuel à haut risque, ou la proportion de la population âgée de 15 à 24 ans ayant des connaissances exactes et complètes sur le sida. Donc on fait des enquêtes en population, ça demande des enquêtes assez difficiles à faire, où on interroge les gens avec un certain nombre de questions sur leur savoir et leurs attitudes et leurs pratiques par rapport à la question du sida et de ses modes de transmission. Pour améliorer la santé maternelle, alors au début, on avait seulement réduire les trois quarts, donc le taux de mortalité maternelle, avec un indicateur de taux de mortalité maternelle, une proportion d'accouchements assistés par du personnel de santé qualifié. Voilà les deux indicateurs qui sont retenus pour la réduction de la mortalité maternelle. Et là, vous avez toute une série sur la santé de la reproduction en général, plus globalement, accès donc à la contraception, regarder le taux de natalité parmi les adolescentes, etc. Donc ça vous donne quelques exemples d'indicateurs, mais ce ne sont pas les seuls, loin de là. Alors, pour réaliser ces objectifs du millénaire pour le développement, le dernier rapport donc, de l'OMD 8, mise en place du partenariat mondial, fait état d'environ 129 milliards de dollars d'aide publique au développement versés en 2010. Ça représente donc 0,32% du revenu national brut des membres du comité d'aide au développement de l'OCDE. Et seuls 5 pays, en fait, du cadre, des membres du cadre, ont atteint l'objectif de consacrer à l'aide publique au développement 0,7% du PIB. Donc, l'aide est concentrée. La grande partie de l'aide publique au développement va à 10 pays, 38% à 20 pays, et elle est publique et privée. Maintenant, on analyse vraiment l'ensemble de l'aide et pas seulement l'aide publique comme on faisait autrefois. Pour ce qui concerne la santé, la mobilisation de financement a été confiée à Jeffrey Sachs par la directrice générale de la santé en 2000 pour mobiliser la communauté internationale, mais développer surtout un plaidoyer de mobilisation de ressources et qui a été fait au moment où il a dirigé la commission macroéconomie et santé, où il a estimé qu'il fallait 30 à 40 dollars par an et par personne dans les pays pour assurer un minimum d'activités, d'offres de services, un paquet minimum d'activités au niveau de soins de santé primaire. Et ce plaidoyer a été fait. Il continue d'ailleurs un plaidoyer très important à l'échelle mondiale en ce moment pour la phase suivante, l'après-2015. Et donc l'aide santé a été multipliée par 4 entre 2000 et 2007. Il y a eu un effort politique important, un effort des bailleurs très important sur l'aide santé, mais on verra donc qu'elle est en proportion très affectée en direction de la lutte contre le sida, surtout en raison de financements massifs américains publics et privés, donc au travers du financement du président Bush PEPFAR, President Emergency Program for AIDS Relief, qui a été vraiment le plus gros financement à la lutte contre le sida sur plusieurs années et qui a été renouvelé donc tous les 5 ans. On entre dans la troisième phase de ce programme dans les pays. Et le Fonds mondial de lutte contre le sida, enfin, et le paludisme et la tuberculose, mais le sida a été en proportion davantage bénéficiaire de ces financements. Alors, pour vous donner une idée, dans cette aide publique au développement en faveur des OMD, aujourd'hui, la Fondation Bill & Melinda Gates, je l'ai su cette semaine, c'est le taux qu'ils annoncent maintenant, le montant qu'ils annoncent maintenant, 4 milliards de dollars par an, donc d'aide privée en faveur des pays en développement. Alors, l'allocation géographique de l'aide pour la santé est analysée par International Health Metrics and Evaluation, qui est un institut basé à Seattle aux États-Unis et qui regarde tous les deux ans comment est distribuée mondialement l'aide publique et privée en faveur de la santé, rapportée justement aux DALIS, dont vous avez eu la définition, à la charge maladie des pays. Et on voit très bien que l'allocation de l'aide n'est pas proportionnelle soit à la population, au niveau de pauvreté ou à la charge de maladie, mais elle suit des décisions plus politiques, historiques, géopolitiques, économiques, etc., que purement épidémiologiques et de santé publique. Alors, on voit globalement les dépenses de santé, puisque c'était un cours sur les inégalités. J'ai regardé ce World Mapper. Alors, c'est vraiment des données de 2002, elles datent un peu, mais ça vous donne quand même une idée des proportions, donc, où l'Afrique disparaît quasiment de la carte quand on s'intéresse à ces dépenses de santé. Un cadre très important qui a été mis en place dans la réalisation des OMD en général et des OMD de la santé en particulier, d'ailleurs, puisque la santé a fait l'objet d'études et d'études pilotes de mise en œuvre de la déclaration de Paris dans les pays du Sud. Donc, c'est une déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide et l'harmonisation. Ce serait intéressant si on vous demandait à chacun comment vous définiriez l'efficacité de l'aide. Pour vous, c'est quoi une efficacité d'aide? Moi, spontanément, une aide efficace, pour moi, c'est une aide qui donne des résultats. Et donc, j'irai directement au quatrième principe donc, de la Déclaration de Paris, qui est la gestion axée sur les résultats. Et vous voyez qu'on a toute une série d'autres principes que je vais essayer de vous expliquer. Donc, l'appropriation est le premier principe de la Déclaration de Paris. Ça veut dire que les pays doivent être leaders en termes de définition de leurs priorités nationales, s'approprier ce choix de priorité de santé publique nationale qui n'appartient pas à la communauté internationale, aux bailleurs de fonds, qui, eux, sont censés venir en appui technique ou financier de décisions prises à l'échelle nationale. Mais ce n'est pas aussi simple que ça au niveau national pour des tas de raisons politiques, de puissance géopolitique, d'influence, etc. Mais pas seulement, ce n'est pas aussi simple que ça non plus pour des raisons tout à fait scientifiques, parce que pour s'approprier des choix nationaux et des décisions, il faut avoir une bonne connaissance de la situation sanitaire et des déterminants dans un pays de la propagation d'une pandémie, par exemple, d'une maladie. Et est-ce que la recherche est suffisamment développée au niveau national et est-ce que les politiques au niveau national ont à leur disposition tous les éléments pour prendre des décisions de manière fondée sur les données récentes, en plus, dans des contextes qui bougent énormément de croissance de population, d'urbanisation, de migration, etc., de tout un tas de transformations du monde contemporain ayant des influences vraiment considérables sur le visage des maladies. Par exemple, l'urbanisation en Afrique est en train de galoper. C'est vraiment un phénomène très impressionnant à observer et qui a déjà des effets, comme vous le décriviez à Dakar par rapport au paludisme, mais qui aussi a des effets par rapport au sida, par exemple. On voit que le sida en milieu urbain est beaucoup plus développé que le sida en milieu rural maintenant, donc sur le continent. Et voilà, donc ça donne un exemple. Mais la question d'appropriation, il ne suffit pas de le dire, il ne suffit pas de même se retirer et de laisser le pays décider. Pour que le pays décide de stratégies pertinentes, il a besoin lui-même d'avoir un service performant à la fois en termes de système d'information sanitaire, d'alerte épidémiologique, etc., mais aussi des études économiques, des études d'analyse des déterminants, etc. Et c'est très peu disponible pour ces pays. Donc l'alignement est aussi un principe très important parce qu'il veut dire s'aligner sur, donc le bailleur doit s'aligner sur les politiques, mais doit s'aligner sur les systèmes, c'est-à-dire ne pas monter une unité de gestion parallèle ou d'achat de médicaments parallèle à l'existant, mais s'intégrer, donc agir au travers des systèmes nationaux existants d'approvisionnement, de gestion, de financement du secteur, de tous les éléments d'utilisation des ressources humaines, de toutes les composantes d'un système de santé. Et la question, c'est comment on intervient et comment on agit en urgence, puisque l'objectif de PEPFAR et l'objectif du Fonds mondial était d'agir en urgence. Il y avait urgence face à l'explosion de la pandémie du sida en Afrique avec des systèmes de santé faibles et comment on manage des fonds de plus en plus importants avec des systèmes de santé faibles. L'harmonisation concerne les donneurs entre eux. Ils doivent harmoniser le plus possible les mécanismes par lesquels ils interviennent. Donc, trouver des dispositifs communs, simplifier les procédures, et on appelle ça plutôt que des approches projets ciblées dans quelques régions ou des quartiers, etc., on appelle ça des approches programmes, des approches sectorielles, où l'ensemble des bailleurs travaillent ensemble à appuyer le secteur de la santé dans son ensemble avec une collaboration avec le ministre de la Santé. Et puis, le dernier principe, c'est la responsabilité mutuelle, c'est-à-dire donc rendre compte conjointement des résultats positifs et négatifs des réalisations. Donc vous avez des indicateurs, je ne vais pas insister sur ça, mais ils ont été définis, les indicateurs de mise en œuvre de la Déclaration de Paris sur l'efficacité de l'aide. Alors, quels sont les résultats des objectifs du millénaire pour le développement ? Donc globalement, l'objectif 1 a été atteint et considéré comme étant atteint, notamment parce que les progrès qui ont été réalisés en Chine ont permis de vraiment sortir des millions de gens de la pauvreté. La scolarisation, donc, et l'objectif est de 100% en 2015, il est presque là. Bon, scolarisation, c'est une donnée quantitative, hein, donc tout le monde est scolarisé, en tout cas dans le primaire, avec une parité qui est aussi considérée comme atteinte dans le primaire entre les filles et les garçons, présentée donc comme ça dans le rapport de l'OMD 2011. Et puis la mortalité maternelle, donc on voit les objectifs santé ne seront pas atteints, parce que la mortalité maternelle qui devait être réduite de 3/4 entre 1990 et 2015 est réduite de 50% en 2010, donc sur une période de 10 ans entre 1990 et 2010, Et puis la mortalité infantile n'a été réduite que d'un tiers et ces mortalités restent très très élevées en Afrique. Bon, là c'est un tableau de suivi, alors il est pas très bien passé, mais c'est pour vous montrer que on l'examine donc par continent, l'Afrique, l'Asie, l'Amérique, et selon le niveau de réalisation par objectif, vous avez donc des niveaux de réalisation très très variables d'une région à l'autre. De manière générale, les données globales ne sont pas très intéressantes. C'est vraiment beaucoup plus intéressant de regarder les données en détail. Alors, pour ce qui est de la mortalité des enfants de moins de 5 ans, 50% de la mortalité est enregistrée en République démocratique du Congo, en Éthiopie, en Tanzanie, Nigeria, Ouganda. Donc vraiment, ce sont ces pays-là sur lesquels il faut continuer d'intervenir pour obtenir une réduction de la mortalité. Donc là, vous avez Louise qui est à Gorée au Sénégal. Louise donc, a des chances, elle a 2 ans, de mourir de pneumonie, diarrhée, sida, paludisme, qui explique 43% de la mortalité des enfants de moins de 5 ans en 2008. Et en 2009, la rougeole et ses complications tuent plus d'enfants que le sida, la tuberculose ou le paludisme. Donc il y a encore beaucoup d'efforts à faire sur la vaccination rougeole pour éviter ça. Ce qui est intéressant aussi, c'est de regarder l'effet de l'éducation des mères sur la mortalité des enfants. Alors, vous voyez que là, vous avez une courbe donc, de mortalité, un taux de mortalité infantile par pays, ici, donc l'Érythrée, par exemple, le Sénégal, le Congo, etc. Et si la mère n'a pas d'éducation, voilà où sont les taux de mortalité infantile, au-dessus. Et si elle a une éducation secondaire ou plus, eh bien, on réduit la mortalité infantile de manière considérable. Donc, on disait d'ailleurs, il y a quelques années, on ne l'entend plus tellement maintenant, que le déterminant le plus important de la santé de l'enfant est le niveau d'instruction de sa mère, quelles que soient les interventions menées par ailleurs. Donc, c'est vraiment très, très important. Et cette diapo le montre pour de nombreux pays, mais c'est également le cas dans les pays du Nord. Et c'est une diapo qui vient du rapport de Sir Michael Marmot, qui a dirigé la commission sur les déterminants sociaux de la santé récemment. Alors, si je voudrais insister, plutôt que de parler comme ça en général, sur les grossesses précoces des filles de 15 à 19 ans, parce qu'en agissant sur ces grossesses précoces, on va sauver à la fois un enfant et un bébé, et en fait deux enfants, puisqu'on a l'adolescente et son bébé. Donc, pour réduire des deux tiers la mortalité infantile, qui est l'objectif de l'OMD, on doit réduire ce niveau de grossesse adolescente. Il est très important, c'est 18 millions de jeunes filles de moins de 20 ans, dont 2 millions de jeunes filles de moins de 15 ans qui ont des grossesses. Elle est dangereuse pour la maman, cette grossesse, elle est dangereuse pour le bébé. On montre que le risque de mourir de ce bébé est multiplié par 2 à 1 mois si, par rapport au bébé né de maman âgée de plus de 20 ans. Ce taux de fécondité précoce est le plus élevé en Afrique subsaharienne. Bon, bien sûr, en nombre, compte tenu de la démographie, plus élevé en Asie. Mais vous avez en Afrique un taux de mortalité maternelle très élevé, 50% de la mortalité maternelle mondiale, le taux de mortalité par avortement le plus élevé et le niveau donc, de fécondité précoce le plus élevé, en particulier dans ces pays, et dont le Sahel, Mali et Niger. Mais n'oublions pas que les grossesses précoces sont aussi fréquentes en Angleterre, aux États-Unis et en Irlande. Alors, aucun progrès n'a été enregistré dans ce domaine dans la décennie 90-99 et aucun progrès dans la décennie 2000-2009. La diminution des grossesses adolescentes a même ralenti dans la décennie écoulée. Donc, ça, ce sont des éléments importants à prendre en compte quand on va définir les objectifs du millénaire pour le développement et les niveaux d'objectifs qu'on veut atteindre dans la phase suivante. Qui sont ces jeunes filles ? Contrairement à ce qu'on pourrait penser, elles sont mariées. 90% des grossesses adolescentes sont des jeunes filles mariées. Elles sont moins susceptibles d'utiliser la contraception. Jusqu'à 75% de ces grossesses sont souhaitées. Ce n'est pas juste la vulnérabilité, etc., ou un manque d'accès à la planning familiale. C'est beaucoup plus compliqué que ça à aborder. Et en Afrique subsaharienne, un tiers des filles en sait assez sur comment on prévient la grossesse. Donc il y a quand même évidemment beaucoup de travail à faire par rapport à ça. Mais ce profil-là, c'est une étude de Overseas Development Institute à Londres, récente, qui montre ces caractéristiques. Donc, et alors, qu'est-ce qui marche, qu'est-ce qui a un impact sur ce problème? Mais c'est la scolarisation encore. Parce que la scolarisation va augmenter l'âge au mariage. Et donc, on voit que 10 ans d'école égale mariage 6 ans plus tard. Donc, la scolarisation est l'intervention la plus efficace. Maintenir les filles à l'école, oui, mais justement, c'est un des problèmes. Et par contre, on voit que l'offre de services a un impact très limité. Donc, encore l'éducation très importante. Pour réduire la mortalité maternelle, donc voilà les proportions, hein, toujours sur World Mapper, vous voyez donc les pays, le continent concerné. Donc, c'est 800 femmes qui meurent par jour d'une pathologie en lien avec la grossesse ou l'accouchement. De cause évitable, 99% dans les pays en développement, surtout en milieu rural pauvre. Et ça peut ne pas paraître beaucoup, 800 femmes par jour, mais c'est au cours de la vie une probabilité d'une femme pour 150 versus une pour 3800 au nord. L'Afrique enregistre, donc on le disait, 50% de la mortalité maternelle mondiale. Et 13% de cette mortalité maternelle globale est liée aux avortements pratiqués dans de mauvaises conditions. Donc l'avortement illégal dans la plupart de ces pays. Et donc c'est dit 14% en Afrique, ça me paraît sous-estimé par rapport au 13% global, parce que les conditions d'avortement clandestins en Afrique sont considérablement moins terribles. Et donc, en tout cas, la mortalité maternelle, les stratégies ne doivent pas occulter cette dimension et cette question d'avortement. Quelles sont les interventions pour réagir? Les femmes doivent suivre 4 consultations prénatales. En général, il y a une bonne couverture, à peu près 80% de femmes vont à la première consultation prénatale. Mais le taux de couverture pour les 4 consultations prénatales est beaucoup moins élevé, comme on le voit ici. Donc, vous voyez, pour chacun des pays ici, on a regardé le taux de couverture. Ici, vous avez 20% en Somalie de femmes qui viennent à la première consultation prénatale, mais au Cap-Vert, vous en avez plus de 80%. Donc, et là, vous avez tous les autres pays. Mais quand on s'intéresse à la quatrième consultation prénatale, ces taux d'utilisation chutent énormément. Et là, vous avez beaucoup de femmes, c'est moins de 20% dans plusieurs pays, 30% à peu près, 40% d'utilisation des services. Donc les services sont peu fréquentés. Pourquoi ? Parce que les femmes n'y sont pas bien accueillies, parce que c'est loin, parce que c'est cher, parce que pendant ce temps-là, elles perdent du temps et ne gagnent pas le petit revenu qu'elles gagnent en s'occupant, en travaillant pendant qu'elles doivent aller au centre de santé. Elles sont peu incitées, en fait, à consacrer du temps, de l'énergie, de l'argent, des déplacements pour aller à la consultation prénatale pour un des bénéfices qu'elles estiment assez peu intéressant et surtout où elles sont mal accueillies, ce qui a été étudié par Jean-Pierre-Olivier de Sardan et Yannick Jaffré, qui ont publié un livre qui s'appelle « La médecine inhospitalière », qui est un livre vraiment très intéressant. Ce sont des travaux très intéressants qui continuent d'être menés au LASDEL au Niger, laboratoire d'anthropologie sociale et développement, et qui analysent cette question de relation entre les patients et les soignants en Afrique, et notamment autour de la maternité, et qui sont complètement dissuasives pour les femmes enceintes et expliquent des taux de consultation prénatale bas, mais aussi de pourcentage d'accouchements assistés par du personnel bas, parce que vous avez vu tout à l'heure, c'est un des critères donc de suivi de l'OMD5, être accouché par du personnel compétent, et pas par quelqu'un de la famille ou la matrone du village, mais vraiment dans une situation plus sûre, et ce taux d'utilisation est très bas. Et on voit sur la période 2000-2009 qu'il a assez peu évolué en Afrique, voyez. Donc, peu de progrès dans ce domaine. Alors, la question de l'impact sur la mortalité maternelle et infantile des ressources humaines. On voit sur cette diapo, il manque des ressources humaines. Il manque des médecins, il manque des sages-femmes, il manque des infirmières, mais il manque aussi des managers, des techniciens radio. Enfin, la pénurie de ressources humaines, de personnel de santé, traverse vraiment toutes les compétences du système de la santé. Et on voit très bien sur cette slide les effets du nombre de personnels de santé. Plus ils sont nombreux et moins les mères et les enfants meurent. Donc l'effet est directement, et ça doit faire partie des stratégies nationales de santé, pas uniquement les interventions ciblant les mamans et les enfants, mais aussi des interventions évidemment en termes de ressources humaines. Donc vous voyez l'inégalité de répartition des médecins dans le monde, et vous voyez l'Afrique à peine, là c'est pour les sages-femmes, et là c'est pour les pharmaciens. On ne mentionne pas souvent les pharmaciens, mais ils sont très peu nombreux, pas beaucoup d'universités forment des pharmaciens, et ils sont en général dans les capitales, et donc très peu de pharmaciens dans les pays. Alors pour le sida, donc on en a déjà beaucoup parlé, mais moi je retiens la question de la pandémie de sida avec 5 mots. Afrique, ville, femme, jeune, groupe à risque. Avec ça, vous avez déjà un bon paysage sur la question du sida en Afrique. L'Afrique, c'est 70% des nouvelles infections, donc du monde. Donc c'est vraiment là que se déroule la pandémie, 30 ans après le début de la pandémie. C'est 70% des décès mondiaux, un tiers de la pandémie en Afrique australe, un tiers de la pandémie en Afrique australe, où se déroule la moitié des décès du monde. Donc vraiment, on est au cœur de la problématique. La prévalence est plus élevée en milieu urbain, je vous le disais. Les femmes. En Afrique, le sida est la première cause de mortalité des femmes en âge de procréer. Plus de 60% des cas de sida en Afrique sont des femmes. Et là, je viens de passer un moment dans un pays d'Afrique de l'Ouest. Entre 20 et 24 ans, 15 femmes pour un homme sont atteintes. Donc, vous voyez, le sexe ratio est très important en faveur des femmes qui sont beaucoup plus vulnérables à l'infection, à la fois biologiquement et surtout socialement. Elles ont moins accès aux services et surtout à la décision de protection, de prévention. Mais les groupes à risque, donc, on les évoque souvent, les hommes ayant des relations sexuelles avec les hommes, les travailleurs du sexe, les usagers de drogue, les hommes, les corps habillés, on les appelle en Afrique les hommes en uniforme, les militaires, etc. Mais on oublie que les jeunes sont vraiment très exposés et la dynamique épidémique est en train de se dérouler beaucoup et notamment dans les villes avec des jeunes. 75% des jeunes, d'ailleurs, de 15 à 49 ans, des jeunes et des personnes de 40, ne connaissent pas leur statut sérologique. On le disait tout à l'heure, c'est un des gros problèmes. Les gens ne connaissent pas leur statut. Alors, la prévalence a diminué. C'est ce que disent les organisations internationales, ONU-SIDA, notamment en montrant donc l'augmentation considérable de financement en faveur du sida au cours de cette dernière décennie, avec donc les différentes institutions qui y ont contribué, notamment le Fonds mondial, et puis le nombre de personnes infectées et qui a diminué au cours du temps. Alors ça, c'est très intéressant pour une agence de faire valoir ça. La question d'attributabilité est beaucoup plus compliquée que ça, mais toujours est-il qu'il semble que l'épidémie se soit stabilisée dans des pays d'Afrique de l'Est notamment. Alors, je vous donne un exemple peut-être en parlant des jeunes en Afrique de l'Ouest pour vous donner une idée de la situation actuelle sur les OMD. Donc, ces jeunes de 10 à 24 ans, c'est 34% de la population et la moitié des nouvelles contaminations dans ce pays. Ils sont exposés par des rapports sexuels précoces, mariage précoce, grossesse précoce. Tout se passe très tôt. 19% des filles ont des rapports sexuels avant 15 ans et 3/4 avant 18 ans. 40% des femmes de moins de 20 ans ont un enfant, déjà. L'écart intergénérationnel est important aussi à regarder parce qu'en fait, les filles se contaminent entre 15 et 19 ans. Elles ont la même prévalence à ce moment-là que les garçons 10 ans plus tard. Les filles jeunes filles vont avec des hommes plus âgés pour des questions de sécurité financière, matérielle, où elles font des études. Enfin, ça touche tout le monde, hein, pas seulement les filles les plus pauvres. Alors, ce qui est une étude, donc cette étude de l'UNICEF, qui montre que la prévalence est plus élevée donc, chez les personnes les plus informées, les plus instruites et les plus riches en milieu urbain. Ça, c'est un profil qui est nouveau par rapport à ce que nous connaissions quand j'étais en Afrique dans les années 90. On avait tendance à dire que c'était plutôt les gens pauvres, les gens moins instruits. Enfin, les études le montraient d'ailleurs. Et là, on a donc avec toutes ces transformations, urbanisation et probablement ce qui n'est pas encore très étudié, un accès beaucoup plus facile à l'alcool et aux drogues parce que toutes les drogues, pas seulement intraveineuses, mais les drogues en général exposent davantage les personnes au risque d'infection VIH par diminution de la vigilance par rapport à la question du risque. Les personnes sous l'emprise de l'alcool n'ont pas la même appréhension du risque qu'une personne sans alcool. Donc ça doit jouer aussi en milieu urbain puisqu'on voit maintenant beaucoup ces choses évoluer. Bon, les limites de la prévention, là c'est l'usage du préservatif par les femmes, donc vous voyez qui sont pourtant exposées. Alors, sur les interventions, l'accès aux antirétroviraux, quelle est la couverture, quels sont les résultats? Donc, selon ce rapport de l'OMS 2011, puisque c'est le dernier là, pour l'Afrique dont on a toutes les données, c'est 37% des patients éligibles aux ARV qui les reçoivent, donc 41% en Afrique de l'Est et 25% en Afrique de l'Ouest. Donc c'est très bas, c'est quand même, bon, c'est toujours ça, mais c'est quand même 37%, c'est bas. Il y a encore beaucoup de chemin à faire pour satisfaire l'ensemble des patients qui sont censés recevoir ces traitements. Et il y a une grande inégalité, ce qui a été montré au sommet de la francophonie récemment à Kinshasa, entre l'Afrique, enfin entre les pays francophones, dont l'Afrique francophone, et les pays et les autres pays, et un retard donc des réalisations des OMD en Afrique francophone notamment. Et on voit par exemple pour la prévention de la transmission mère-enfant du SIDA, 36% des femmes enceintes séropositives accèdent à cette prévention dans l'OIF, donc les pays de la francophonie, et versus 62% pour les autres régions, par exemple. Voilà, donc le paludisme, on a relaté beaucoup de succès sur le paludisme dans l'Afrique de l'Est notamment ces dernières années. 8 pays ont rapporté moins de 8 décès pour 100 000 habitants, donc ça c'est l'Érythrée, le Djibouti, Swaziland, Botswana, voilà les pays très performants sur la lutte contre le paludisme avec une volonté politique forte dans ces régions, des interventions qui ont bien marché. Et 16 pays ont rapporté plus que 100 décès pour 100 000 et c'est presque tous en Afrique de l'Ouest. Donc là, on retrouve encore, c'est juste pour le mentionner, sur le paludisme, sur la tuberculose, des résultats et à chaque fois dans le rapport on voit à l'exception de l'Afrique de l'Ouest. Donc il y a vraiment à s'intéresser de plus près à cette région. Alors qu'est-ce que retenir de cette décennie de réalisation des OMD? C'est un premier consensus sur le développement. Les objectifs ont été définis simplement et clairement. Ils sont reconnus comme étant donc moteurs en termes de communication et de mobilisation politique avec des résultats. Alors la question de est-ce que les résultats sont attribuables pendant que dans cette décennie écoulée, les pays ont aussi, du fait de leur croissance, bénéficié de revenus de 300 milliards de dollars par an en plus et que les effets de cette croissance, qui est inégale certes dans les pays d'Afrique, mais a eu certainement des effets aussi sur la santé. Alors, sur la santé, une augmentation sans précédent des financements mondiaux, une volonté politique à ce niveau-là, mais quand on regarde de plus près les proportions du Fonds européen de développement, par exemple, consacré à la santé, c'est 3% du 10e Fed consacré à la santé, et en France, c'est à peu près 5-6% de l'aide publique au développement consacrée à la santé. Donc, il faut maintenir ce niveau de volonté politique, le maintenir dans la durée, dans un paysage qui a changé aujourd'hui, 10-15 ans après la définition des OMD précédents, où les questions de changement climatique, d'urbanisation, d'autres problématiques mondiales sont du coup en concurrence dans un contexte de crise financière et économique aussi. Les inégalités, on en a parlé. Oui, alors... Une des raisons pour lesquelles je pense l'Afrique est en retard, et notamment l'Afrique francophone, j'ai regardé dans The Economist, donc l'hebdomadaire anglais, britannique, la semaine de l'intervention donc, de la France au Mali. Et vous avez donc sur la page 1 du web de The Economist un petit peu les commentaires et les thématiques des commentaires des internautes. Et c'est quand même intéressant de voir que le Mali et l'Afrique en général, vous trouverez très très peu de commentaires. Donc est-ce qu'il y a un intérêt pour ce continent ? Et comment susciter davantage d'intérêt, de connaissances, d'envie d'y travailler, etc. Bon, je crois que je vais m'arrêter là, d'autant que les transformations à venir en Afrique sont importantes. Hein. C'est le continent où la croissance démographique va être la plus importante dans les décennies qui viennent, puisque la population va doubler sur le continent avant 2050. Une personne sur cinq sera africaine sur la planète en 2050. Et une urbanisation donc très accélérée, très rapide, et avec une pauvreté, un analphabétisme, et surtout des jeunes, donc une proportion très élevée de jeunes, hein, 40% de jeunes, à qui il faut donner des emplois au risque donc d'instabilité politique, notamment. Voilà. Et oui, je vous ai mis cette carte parce que ils annoncent que bientôt on aura en continu d'Abidjan à Lagos, donc Nigeria, est-ce qu'il est là, des populations en continu sur toute cette côte-là. Donc c'est quand même assez impressionnant quand on pense qu'il y avait, on a des villes qui étaient pas du tout aussi étendues il y a 10 ou 15 ans. Donc ça va très très vite. Voilà, je vous remercie.